Chapitre 68. Quatre jours plus tôt. Parking du belvédère des quatre fils Aymon, Bogny-sur-Meuse. Amos et Christophe attendaient dans la Skoda. Silencieux. Tablette muette. Anxieux. Leur père, armé de son CZ-75 automatique, était parti à la rencontre de Renaud Duval depuis de longues minutes maintenant. Amos entendit d'abord Christophe bouger, exprimer tous ces signes d'impatience qu'il reconnaissait si bien. Craquement des articulations, respiration accélérée, gesticulation incontrôlée, avant que son frère, brusquement, ouvre la portière et mette un premier pied dehors. Amos tapa aussi vite qu'il le put sur la tablette braille. « Où tu vas ?» Pissé. « Je te crois pas. »« Comme tu veux. En tout cas, tu as entendu papa. Toi, tu restes là, à écouter. Et compter. Un ou deux coups de feu. Moi, pendant ce temps, je suis hors jeu. Comme toujours. » Christophe savait que c'était le meilleur argument à utiliser. Faire culpabiliser son petit frère. Lui rappeler qu'il était le fils préféré, que c'est à lui que leur père avait confié le soin de veiller, surveiller, décider. Christophe, lui, aux yeux de son père, n'était qu'un chien fou à tenir en laisse. À chaque fois qu'il jouait sur cette corde sensible, qu'il appuyait sur une discrète touche de jalousie susceptible de fissurer leur complicité fraternelle, Amos s'empressait de le rassurer. Et de le laisser faire ce qu'il voulait. Dans un couple, pensait Christophe, il y en a toujours un qui râle et un qui culpabilise, et le premier sort toujours vainqueur de chaque crise. Christophe s'éloigna de la Skoda en direction du belvédère, suivant les larges traces de pas de son père. La nuit n'était pas encore complètement tombée. Un croissant de lune semblait s'être détaché de la courbe du méandre. C'était l'heure du théâtre d'ombre, des arbres noirs aux silhouettes de vampires, des corps sans yeux ni sourire, l'heure préférée du grand marionnettiste, s'il existe. Celle où le grand drap blanc peut être tendu, éclairé jusqu'à aveugler, pour que derrière lui les acteurs muets, réduits à un profil, puissent jouer. Christophe prit garde de ne pas trop s'approcher. Il avait trouvé un poste d'observation idéal, à une centaine de mètres du belvédère, dissimulé par les ronces bordant la prairie, quand la pluie se mit à tomber. Une pluie de cinéma, comme commandée par un réalisateur estimant que le crépuscule lugubre, la dramaturgie de la scène, la folie des acteurs ne suffisait pas. Une pluie artificielle qui ne durerait pas, c'est ce que Christophe avait pensé. Elle était pourtant tombée pendant plus de 4 jours, sans s'arrêter. Question effets spéciaux, le grand marionnettiste avait mis le paquet. Le scénariste, lui aussi, avait assuré. Il devait aimer les tragédies, les vraies, celles où l'on ne transige pas avec l'honneur, celles où les héros finissent toujours par s'affronter dans un ultime duel. Debout sur le belvédère, face à face au pied de la statue des quatre fils Aymon, Libor et Renaud se défiaient, chacun pointant son pistolet en direction de l'autre. « Papa a eu tort, » pensait Christophe. « Ce Renaud Duval, ce fils maudit qui devait le tuer selon la prophétie, était venu armé. » Bien entendu. Renaud Duval n'était pas cinglé. Il s'était planqué pendant des années, avait changé d'identité, trimballé de bohème aux Ardennes par sa mère meurtrière. Elle lui avait enseigné la prudence des bêtes traquées. Ce Renaud n'était pas venu pour expier, s'excuser. Il était venu pour défendre sa famille, pour lui aussi en terminer. Christophe plissa les yeux. La pluie ruisselait sur sa figure. Il aimait l'eau sur ses brûlures. Il aimait imaginer que les gouttes combattaient le feu qui le rongeait. Il aurait pu rester des heures sous la douche, sous une averse, juste à espérer que le cours du destin s'inverse, que son visage redevienne celui qu'il avait été avant. Celui de ce gamin à la peau de miel et aux yeux café crème qui séduisait les filles de Bohême. Christophe se concentra. Entre les gouttes, il distinguait chaque expression du visage de son père. Avec le temps, Christophe s'était entraîné à voir loin, avec précision, à régler la netteté avec plus de rapidité. Si l'ouïe se développe quand on devient aveugle, pourquoi la vue ne s'aiguiserait-elle pas quand on devient sourd? Christophe peinait pourtant à croire ce qu'il voyait. Son père souriait. Libor conversait avec son fils sans lâcher son arme braquée, mais avec décontraction, ainsi que le feraient de vieux amis qui se retrouvent après une longue séparation. Jamais Christophe n'avait autant regretté de ne rien entendre, de devoir se contenter d'assister à distance à la projection d'un film muet, et de devoir inventer dans sa tête des paroles cohérentes, faute de pouvoir les lire sur leurs lèvres. Des paroles sans haine, à en juger par la sincérité du sourire de son père. Des paroles de réconciliation, à en juger par la douceur de ses gestes. Des paroles d'amour même, à en juger par l'éclat étoilé de son regard. Christophe se mordit la bouche à sang. Des perles roses, noyées de pluie, roulèrent dans son cou. Il se trompait forcément. Son père jouait un rôle pour mieux piéger ce Renaud, se protéger de ce fils parricide. Comme pour mieux le détromper, Libor ouvrit d'un coup les bras en croix. Un geste de paix, ou de sacrifice si l'autre refuse l'accolade. Le CZ-75 automatique dans son poing était maintenant braqué vers le ciel. Renaud face à lui hésitait, le visage toujours fermé. Libor insistait, levait plus haut encore les mains. Sa gestuelle cette fois n'était pas difficile à traduire en mots. Christophe devinait ce que son père prononçait, visage fouetté de pluie. « Vas-y, Renaud, accomplis la prophétie. Tire, et que tout soit fini !» Leur père voulait simplement que son destin trouve un sens ici, s'assurer que sa vie n'était pas qu'un immense gâchis, que dans la boue et les cendres de Pilsen, une fleur au moins avait poussé. Qu'il n'avait pas seulement élevé deux monstres, deux crétins au visage brûlé, qu'il resterait de lui un peu de beauté. Christophe comprenait. Leur père s'était servi d'eux, toutes ces années. Il leur avait fait miroiter cette vengeance tel un os à ronger. Et plus il avait attisé cette haine en eux, plus il s'en était débarrassé. Et plus il les avait haïs. Libor avait fermé les yeux. « Tire, Renaud, tire, mon fils !» Renaud ne tirait pas. Il gardait son pistolet braqué, méfiant, cherchant le piège, évaluant chaque regard, écoutant chaque mot qui se perdait dans le vent. Et aussi soudainement que Libor avait ouvert les bras, Renaud ouvrit les siens. Il regarda fixement son père, sourit cette fois, et d'un geste de semeur de graines, lança son arme dans l'obscurité. Il ne serait pas celui qui le tuerait. Il refusait d'accomplir la prophétie. Il s'offrait à Libor, désarmé, esquissant un rapprochement, une ébauche de complicité. Alors Libor baissa son pistolet et le pointa droit devant lui. À cet instant précis, Christophe reconnut son père, celui qu'il admirait. Pas le marionnettiste raté, pas l'alcoolique désabusé. Il retrouvait Libor le déterminé, celui qui avait mené cette chasse d'une main de fer, celui qui ne renonçait jamais, qui avait su naviguer toutes ces années entre les communistes de la STB et les nouveaux cadres convertis à la révolution de velours. Libor le craint, Libor le rusé. Son père avait réussi à apitoyer ce fils naïf, comme dans les plus grands duels de l'Ouest. Il l'avait amené, à force de bluffs et de séductions, à détourner son arme, et même s'en débarrasser. Il ne restait plus à Libor qu'à achever la bête stupide, sans défense, et tout serait terminé. Libor continua de baisser son CZ-75, le braqua en direction de Renaud Duval. Plein cœur. Christophe devait au moins lui reconnaître ce courage. Son demi-frère ne bougeait pas. Il se tenait raide et digne, drapé dans la fierté d'un partisan qui va être exécuté. Libor tira. La détonation explosa dans la pluie, du moins Christophe le supposa. Amos l'avait forcément entendu. Un coup de feu. Renaud Duval n'avait pas scié, pas tremblé, comme si la balle l'avait traversé sans le toucher. Ou plus sûrement, comme si... Libor avait visé à côté. Tout alla alors très vite. Il fallut ensuite de longues heures à Christophe, et même des jours, pour parvenir à repasser la scène au ralenti, à séparer chaque geste, comme on dissèque un mouvement de danse complexe. Libor retourna le pistolet contre lui, canon collé à sa gorge. Christophe comprit que son père avait décidé de se suicider. Tout s'éclairait. Libor avait tout prémédité. Deux coups de feu, et la vengeance cessait. Il leur avait annoncé il y a quelques minutes dans la voiture. « Je le tue, je me tue, et ainsi tout est terminé. Vous êtes libérés. » Mais il n'avait pas pu tirer sur son fils. Il avait décidé de lui laisser la vie sauve, d'accomplir lui-même la prophétie, et de mourir pour lui. Deux coups de feu, un sacrifice, et la malédiction s'achevait. Christophe refusait d'y assister, refusait de voir la seconde balle transpercer le menton de son père et ressortir 30 centimètres plus haut. Il s'apprêtait à fermer les yeux quand il vit Renaud se précipiter, quand il vit sa bouche se déformer, crier un mot que pour la première fois il pouvait lire sur ses lèvres. Ce mot que ni lui ni Amos n'avaient jamais osé prononcer. Les lèvres de Renaud s'ouvrirent et se refermèrent deux fois. « Papa !» Renaud était parvenu à éloigner le canon du menton de son père. Libor se défendait. Renaud était plus jeune, mais son père était plus fort. Christophe espéra une dernière fois que le coup parte par hasard, que le hasard choisisse son demi-frère. Mais il en décida autrement. Dans leur lutte désespérée, Libor et Renaud ne s'aperçurent pas qu'ils s'approchaient du parapet de sécurité. Haut d'à peine un mètre, que le goudron sous leurs pieds se transformait en patinoire détrempée, qu'au moindre faux pas, ils basculeraient. Leurs deux corps disparurent dans le même mouvement, tels deux judokas emportés par la même prise dans les limbes d'un tatami qui se serait ouvert sous leurs pieds. Puis Christophe ne vit plus rien d'autre que la pluie. Quand il retourna à la Skoda, Amos lui confirma qu'il n'avait entendu qu'un seul coup de feu. Christophe attrapa une lampe torche et entraîna son frère. Quand ils découvrirent 20 mètres sous le belvédère, les deux corps sans vie, ils ne se penchèrent que sur celui de Libor.